Thank you for that beautiful music.
Merci de cette belle musique. À la fin du discours de Sir Dalton, le chœur chantera « Venez, venez, sans craindre le devoir ». Il sera dirigé par Lynn Hopkins et accompagné à l'orgue par Benjamin Lee. Ensuite, Rebecca Maxwell fera la prière de clôture. J'ai maintenant l'honneur de présenter l'oratrice de ce soir. Elaine Dalton est née et a grandi à Ogden, en Utah. Elle a obtenu sa licence d'anglais à l'université Brigham Young. Elle a épousé Stephen L. Dalton au temple de Salt Lake. Ils ont 5 fils, une fille et 12 petits-enfants. Avant son appel de présidente générale des jeunes filles, elle a été la première et deuxième conseillère de la présidence générale des jeunes filles. Avant cela, elle a été membre du bureau général des jeunes filles pendant 5 ans. Sir Dalton a été appelé à servir dans chaque auxiliaire des sœurs de l'Église, que ce soit au niveau du pieu ou de la paroisse. Elle aime courir, faire des randonnées en famille et danser avec ses petites filles. Elle aime lire, surtout les Écritures. Et elle aime le Seigneur. Son écriture préférée et sa devise dans la vie est Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Sir Dalton.
Oh, it's a privilege to stand before you this evening.
Oh, c'est un honneur d'être avec vous ce soir. Je veux remercier tout le monde dans ce chœur pour cette musique merveilleuse. Merci beaucoup pour l'esprit que vous avez apporté et merci pour la belle prière. Je suis heureuse et touchée d'être devant vous et je prie que chacun d'entre vous sache combien le Seigneur vous aime. Je veux que vous sachiez que je vous aime profondément. Je suis heureuse que mon mari Steve et les membres de ma famille soient là aussi. J'aime mon mari. Lui et moi, nous avons fait nos études à l'université Brigham Young et c'est là que nous avons pris la décision de nous marier. Je pense que c'est intéressant de savoir que je me tiens devant vous le jour de notre anniversaire de mariage. Joyeux anniversaire, mon chéri. Vous savez, nous sommes mariés depuis le même nombre d'années qu'il a fallu pour construire le temple de Salt Lake ou pour les enfants d'Israël qui ont erré dans le désert. Et tout ce que nous avons produit se trouve assis ici, au premier rang. Nos enfants sont nos trésors. Je les aime et j'adore être leur mère. Je les ai regardés grandir dans l'Évangile et recevoir des enseignements depuis des chairs de l'Église. Je suis reconnaissante qu'ils aient choisi d'écouter les conseils des prophètes voyants et révélateurs. J'ai aussi regardé les jeunes de l'Église grandir dans l'Évangile. J'ai un lien particulier avec les jeunes filles de cette assemblée et du monde entier. Parce que j'ai passé à œuvrer dans la présidence des jeunes filles pendant des années. Nous avons quasiment passé des années du programme de jeunes filles ensemble. Nous avons reçu notre médaillon des jeunes filles ensemble. Nous nous sommes levés et répété le thème des jeunes filles ensemble. Nous sommes les filles. Nous serons, nous nous préparons, nous croyons. Je vous considère comme mes jeunes filles. Et vous, jeunes gens, j'ai vu beaucoup d'entre vous recevoir la prêtrise, honorer vos alliances et le pouvoir de la prêtrise et se préparer à faire des missions dans le monde entier. Vous êtes mes héros. Vous êtes formidables par votre force, votre courage et votre désir de justice. Chacun d'entre vous a commencé son parcours de Saint des derniers jours à un moment crucial de votre vie. C'est le moment de prendre des habitudes éternelles et des décisions durables. Vous êtes l'avenir de l'Église et des pays où vous vivez. Vous avez été réservés pour un temps comme celui-ci. Vous aurez des possibilités qui surpasseront vos plus grandes attentes. Et vous aurez la bénédiction, comme je l'ai eue, d'avoir des moments décisifs qui influenceront et affecteront cette décennie de décision. C'était ici, à BYU, à une réunion spirituelle de l'université, que tout a commencé pour moi. Je fréquentais un jeune homme et un soir, il s'est mis à parler de mariage. Et il était très insistant. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là parce que les choses qu'il m'a dites m'ont rendue perplexe. et je savais que je devais prendre une décision. J'ai prié le Seigneur de m'aider à savoir ce que je devais faire, mais je n'ai pas reçu de réponse immédiate. Le lendemain matin, nous avons assisté à une réunion spirituelle ensemble, et pendant cette réunion, j'ai écouté avec stupéfaction le discours de A. Theodore Tuttle qui s'est levé et s'est mis à parler du processus de prise de décisions importantes. C'était comme s'il s'adressait directement à moi. Il connaissait mon cœur et ses paroles ont pénétré profondément mon âme. Il a expliqué le processus de prise de décision en se référant à la section 9 des Doctrines et Alliances. Tout le monde semblait bien connaître cette section, sauf moi. Vous aussi, vous connaissez cette section, mais pour moi, ce jour-là, elle a été une vraie révélation et il m'a fourni un modèle à suivre pour recevoir une réponse à mes prières. Il a lu « Voici, tu n'as pas compris. Tu as pensé que je te donnerais alors que ton seul souci était de me le demander. Mais voici, je te dis que tu dois l'étudier dans ton esprit. Alors, tu dois me demander si c'est juste. Et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. Mais si ce n'est pas juste, tu ne sentiras rien de la sorte. Mais un engourdissement de pensée qui te fera oublier ce qui est faux. » Bien qu'à l'origine, ce passage se soit adressé à Oliver Cowdery, à ce moment-là, il m'était adressé personnellement et il répondait directement à la question que j'avais posée dans la prière la nuit précédente. Puis, frère Tuttle a expliqué un processus qui consistait à faire la liste des avantages et des inconvénients, prendre une décision provisoire et exposer cette décision au Seigneur par la prière. Alors, je savais que je devais agir. Je ne pouvais pas continuer de faire ce que je faisais. J'ai décidé de prendre une décision. Je le savais et je savais que Dieu savait que je savais. Après avoir pris la décision provisoire d'aller de l'avant, je ne peux pas dire, lorsque j'ai reçu ma réponse, que mon sein brûlait au-dedans de moi. Mais je sentais que c'était juste. Je me sentais à l'aise et bien. Je n'étais plus perplexe ni troublée. Je me sentais en paix. Je savais ce que je devais faire et j'étais heureuse. Alors, je suis allée de l'avant et ce jeune homme insistant est ici avec moi ce soir. Je suis reconnaissante de sa bonté, de son insistance et de sa patience. Cela a-t-il toujours été facile après que j'ai reçu la réponse? Non. Mon mari m'a dit, jusqu'à aujourd'hui encore, il peut vous montrer la marque de mes talons dans le béton à l'extérieur des portes du temple de Salt Lake, où j'ai eu un peu peur et je voulais attendre. Mais jusqu'à ce jour, voici ce que j'ai appris. Si vous faites preuve de foi par la prière, le Seigneur vous aidera à prendre des décisions cruciales à des moments cruciaux. Il entendra vos prières et y répondra par les murmures du Saint-Esprit. Vous ne serez pas seul. Vous avez reçu la bénédiction d'être capable de recevoir des directives du Saint-Esprit. Et dans Doctrine et Alliance à la section 8, le Seigneur promet à chacun d'entre nous, « Je te le dirai dans ton esprit et dans ton cœur. » C'est ce qui m'est arrivé et cela arrivera aussi à chacun d'entre vous. Je rends témoignage que le Seigneur entend nos prières et y répond et qu'il nous guidera si nous cherchons à faire sa volonté et si nous obéissons à ses commandements. C'est le processus par lequel nous recevons la révélation personnelle. Alors, je prie ce soir pour que l'Esprit du Seigneur vous accompagne lorsque vous écouterez ce message que j'ai préparé, pour qu'il soit parfaitement clair. Je prie pour que ce message s'implante dans votre cœur et qu'il vous touche tout particulièrement. Je prie pour que le Saint-Esprit vous pénètre de l'importance de ce message simple, afin que vous puissiez l'intégrer dans des décisions importantes que vous prendrez dans les moments décisifs de votre vie. Le message que je vous apporte ce soir est un appel retentissant qui s'adresse à vous, les jeunes de cette génération choisie, à diriger le monde vers un retour à la vertu. Qu'est-ce que la vertu? Pourquoi est-elle importante et comment chacun d'entre nous peut-il se joindre à cette cause noble et sacrée? Je vais commencer en vous racontant la simple histoire d'une petite fille de l'époque des pionniers nommée Agnes Caldwell. Agnes raconte son son expérience dans le convoi de charrette en 1856. Elle n'avait que 29 ans. Elle raconte « Bien que j'ai été très jeune à l'époque, je peux fermer les yeux et décrire tout ce que j'ai vécu dans le moindre détail. Je me souviendrai toujours d'avoir marché, marché, marché sans cesse. Plusieurs fois, j'étais si fatiguée que je me comportais comme une enfant. Je m'accrochais à la charrette, mais on me repoussait gentiment. Alors je me jetais sur le côté de la route et je pleurais. Puis, me rendant compte qu'ils me dépassaient tous, je sautais sur mes pieds et je courais pour les rattraper. » Elle ajoute, juste avant que nous franchissions les montagnes, des chariots de secours nous ont rejoints et cela a été un grand soulagement. Les infirmes et les personnes âgées étaient autorisées à monter dans les chariots. Toutes les personnes valides devaient continuer à marcher. Quand les chariots se sont mis en route avec un certain nombre d'autres enfants, nous avons décidé de voir combien de temps nous serions capables de suivre les chariots dans l'espoir qu'il nous serait proposé de monter dans le chariot. Les enfants qui m'accompagnaient étaient tombés un à un. Il ne restait plus que moi, très déterminée à monter dans le chariot. Après ce qui m'a semblé être la plus longue course de ma vie, le charretier m'a interpellée et m'a dit « Dis-moi, petite, tu veux monter ?» J'ai répondu avec ma plus grande politesse « Oui, monsieur. » Sur ce, il a attrapé ma main, a claqué sa langue pour que ses chevaux avancent pour me faire courir, avec des jambes qui me semblaient ne plus pouvoir courir plus loin. Il a continué pendant ce qui m'a semblé être des kilomètres. À ce moment-là, je me suis dit qu'il était l'homme le plus méchant de la Terre. Juste au moment où je ne pouvais plus continuer, il s'est arrêté. Il a pris une couverture, m'a enveloppé avec et m'a déposé au fond du chariot pour que je sois au chaud et à l'aise. Là, j'ai eu le temps de changer d'avis car je me suis rendu compte qu'en me faisant courir avant de me prendre dans le chariot, il m'avait évité de mourir de froid. Agnes Caldwell et sa famille sont arrivés sains et saufs dans la vallée du Grand Lac Salé le 9 novembre 1856. Ils se sont installés à Brigham Young, à Brigham City, en Utah, où Agnes a rencontré et épousé Chester Southworth. Ils ont eu 13 enfants et ont participé à l'implantation d'une colonie de l'église à Cardston, en Alberta, au Canada. Si le conducteur du chariot avait pris Agnès sans la faire courir, elle aurait sûrement succombé au froid glacial. Et si Agnès avait choisi d'abandonner et de se laisser distancer, son histoire aurait pu finir d'une toute autre manière. Cependant, pour Agnès, cela a été un moment déterminant. La décision de courir ne lui paraissait pas vraiment logique à ce moment-là. Mais elle a couru quand même. Elle a couru vers Sion, suivant les pas de Brigham Young, le prophète, et écoutant la voix du Seigneur. Qu'il s'éveille et se lève, qu'il parte et ne demeure pas, car moi, le Seigneur, je le commande. C'était la course de sa vie. C'était dur, mais elle a résisté. En courant, elle a pu produire assez de chaleur corporelle pour se tenir au chaud dans le chariot. Chacun de vous est en chemin pour Sion. Et comme Agnès, le Seigneur vous a dit, « Éveillez-vous et levez-vous, partez et ne demeurez pas. » Car Sion n'est pas seulement un endroit, mais c'est aussi ceux qui ont le cœur pur. Et la pureté du cœur doit être votre but afin d'atteindre cette destination finale. Jamais auparavant, il n'y a eu de génération tout à fait comme la vôtre. Vous êtes mieux préparés et mieux équipés. Vous avez ce qu'il vous faut et c'est maintenant que vous devez faire la course de votre vie, la course vers Sion. Le président Manson et les frères qui l'ont précédé nous ont montré la voie. Le sentier est clairement marqué et le rythme est soutenu et régulier. On vous demande, comme à Agnès, de traverser les plaines. Vous n'aurez peut-être pas à abandonner tous vos biens terrestres, mais le voyage vers Sion exige que vous abandonniez tous vos péchés afin de le connaître, lui, le Christ vrai et vivant. On vous demandera même peut-être de courir jusqu'à épuisement, mais quand vous le ferez, la chaleur de l'amour du Seigneur vous préservera en vue d'une grande œuvre encore à venir. Il vous est demandé de faire la même chose que ce que le Seigneur a demandé quand il a donné à l'Église son nom, l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Dans Doctrine et Alliance 115, verset 5, nous lisons « Levez-vous, brillez, afin que votre lumière soit une bannière pour les nations. » La petite Agnès Caldwell a couru vers Sion et en le faisant, elle et ses semblables ont élevé un étendard pour les nations et pour cette génération. Son voyage vers Sion était marqué par sa foi et son témoignage. Il avait rapport avec Joseph Smith, Moroni, Oliver Cowdery, Néphi, Moïse, Josué et même Thomas S. Monson. Il avait et a rapport avec vous et moi. Agnès a couru vers Sion parce qu'elle avait un témoignage. Sa mère savait que l'Évangile était vrai et elle a enseigné à sa fille. Elles ont sacrifié tout ce qu'elles avaient pour venir en Sion et pour construire un temple à notre Dieu. Elle savait que Joseph Smith était un prophète de Dieu, que le livre de Mormon était vrai. Elle savait que les bénédictions qui seraient octroyées dans les saints temples étaient nécessaires pour que le plan s'accomplisse. Et elle savait, comme Moroni l'avait répété à Joseph Smith, que s'il n'en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. Sion était alors et est toujours le but. C'est la cause de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Et le moment est venu, comme Moroni nous y a exhorté, d'être fidèles dans le Christ, de nous saisir de tout bon don et de ne pas toucher au mauvais don ni à ce qui est impur. Maintenant est le moment. Le moment est venu de te réveiller, de te lever de la poussière et de te revêtir de tes beaux vêtements afin que les alliances que le Père éternel a faites avec toi, ô maison d'Israël, s'accomplissent. Le moment est venu de revenir à la vertu. La vertu signifie la pureté. Elle commence dans le cœur et l'esprit. C'est un mode de pensée et de conduite basé sur des principes moraux élevés. La chasteté, c'est la pureté sexuelle. La vertu et la chasteté sont inséparablement liées. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Le retour à la vertu est le retour à la pureté. Certains ont dit que la vertu signifie être gentil ou honnête ou intègre. Mais l'essence d'une vie vertueuse est la chasteté. Et on ne peut être honnête ou intègre sans pureté sexuelle. C'est impossible. On ne peut pas jouer avec l'esprit divin et le corps sacré, l'âme éternelle de quelqu'un d'autre et être considéré comme faisant preuve de vertu ou étant vertueux. Le faire, c'est transiger avec le libre arbitre pour lequel nous nous sommes battus pendant notre prière et existence. La vertu ne concerne pas que les femmes, comme certains l'ont dit. La racine latine du mot vertu est virtus, qui veut dire force. Un des sens contemporains de la vertu est d'avoir une qualité effective ou bénéfique, particulièrement la capacité de soigner ou de renforcer. Ainsi, la vertu ne s'applique pas qu'aux femmes, mais à tous. Quand la femme dans les rues de Jérusalem a tendu la main et a touché le bord du vêtement de Jésus, elle savait qu'elle guérirait. Pourquoi? Parce qu'elle se rendait compte de la pureté et du pouvoir du Seigneur. Le Sauveur lui-même a dit « J'ai connu qu'une force est sortie de moi ». La vertu à laquelle il faisait référence était le pouvoir de la prêtrise, qui accompagne sans cesse les saints des derniers jours qui sont purs et qui pratiquent la vertu et la sainteté devant le Seigneur. L'année dernière, par une froide journée d'avril après la conférence générale, j'ai grimpé en haut dans Sand Peak avec mes deux conseillères, Mary Cook et Anne Dibb. Là, nous avons déployé un châle doré péruvien, une bannière appelant au retour à la vertu. Là, depuis ce sommet, en contemplant la vallée et en regardant le majestueux temple de Salt Lake, nous avons su qu'un retour à la vertu signifiait un retour à la pureté morale. La vertu est la clé d'or qui ouvre les portes du temple. Comme Russell M. Nelson l'a enseigné, le temple est réellement la raison de tout ce que nous faisons dans l'Église. Tout ce que nous faisons dans l'Église, chaque activité, chaque leçon, nous dirige vers le Seigneur et sa sainte maison. Brigham Young le savait. Et là, en haut de l'ancienne pique, nous savions que c'était vrai. En déployant cette bannière à la vue du monde, nous savions qu'un retour à la vertu était non seulement important, mais c'est vraiment crucial. Nous devons être dignes d'entrer dans le Saint-Temple du Seigneur et faire l'œuvre pour laquelle nous avons été préparés et préordonnés. Rien d'impur ne peut entrer dans sa maison. Comme le conducteur de ce chariot de secours qui a empêché Agnès Caldwell de mourir gelée, nous avons nous aussi la possibilité et l'honneur de devenir des sauveurs sur le mont Sion pour faire pour les autres ce qu'ils ne peuvent faire pour eux-mêmes. Cela n'est possible que quand nous sommes dignes de contracter et de respecter des alliances sacrées et de recevoir les ordonnances du Temple. Maintenant, chacun de vous a une grande œuvre à accomplir. Ce que vous faites et ce que vous décidez est important, parce que vous êtes important. Vous êtes des esprits d'élite qui ont été tenus en réserve pour paraître dans la plénitude des temps afin de contribuer à jeter les fondements de la grande œuvre des derniers jours, y compris la construction des temples et l'accomplissement de ses ordonnances. Certaines des plus grandes choses que vous ferez seront dans les temples. Il ne faut pas s'étonner que Satan ait augmenté l'intensité de ses attaques. S'il peut vous détourner et vous disqualifier d'entrer dans le temple pour y faire ce que vous avez été réellement préparé, il gagne. Ce qui devient clair, c'est que vous devez être pur et digne pour recevoir les murmures du Saint-Esprit dont vous avez besoin pour les décisions que vous devez prendre maintenant. Ce qui est clair également, c'est que vous devez rester digne d'entrer dans les saints temples du Sauveur. C'est grâce à tout le travail et tous les sacrifices des générations précédentes. Les pionniers ont sacrifié tout jusqu'à leur vie pour que ce jour arrive. Car vous voyez, votre venue sur Terre n'est pas due au hasard. Tout cela faisait partie du plan que vous avez accepté avec joie dans la préexistence. Vous vivez à un moment marquant de l'histoire du monde. On a dit de vous que vous êtes une génération cruciale. Pierre a dit de vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Eh bien, que jamais autant n'a été attendu auparavant, jamais autant n'a été donné. Les prophètes, les écritures, la prêtrise, les ordonnances, les alliances, les temples et le livre de Mormon et l'évangile dans sa plénitude. Vous avez été préparés, appelés et choisis. C'est votre moment maintenant. Je crois que les accomplissements de votre génération seront écrits en capital d'imprimerie dans les récits et que l'on fera dans ces temps troublés où nous vivons. Pour accomplir les tâches pour lesquelles vous avez été préordonnés, votre foi doit être fermement ancrée à notre Sauveur Jésus-Christ. Et vous devez vous souvenir que la foi n'est pas qu'un principe de pouvoir, mais un principe d'action. Vous devez agir selon la foi que vous avez déjà. Pendant la préexistence, vous avez montré une foi extrême et de bonnes œuvres. Pas seulement une foi. Une foi extrême et de bonnes œuvres. Alma déclare que chacun de vous a été appelé et préparé dès la fondation du monde, selon la préscience de Dieu. Mes jeunes frères, vous avez été préparés à recevoir la prêtrise qui vous permet d'exercer le pouvoir de Dieu pendant votre séjour terrestre. Mes jeunes sœurs, on vous a donné la noble responsabilité et confié le don de soutenir les autres et de devenir les mères d'autres esprits de choix. On vous a confié les pouvoirs mêmes de la divinité de créer la vie mortelle. Les personnes vertueuses s'engagent à mener une vie sainte. Elles respectent les recommandations de Dieu sur la façon dont la vie doit être conçue, protégée et maintenue. Il n'y a pas de force plus grande que la force de la vertu, ni de confiance plus grande que celle que l'on a quand on mène une vie vertueuse. Dans la préexistence, vous avez fait une guerre. Vous avez combattu avec votre foi et votre témoignage pour accepter et soutenir le plan de Dieu, le plan qu'il avait présenté. Vous saviez que le plan était juste et vous saviez que le Sauveur pourrait faire et ferait ce qu'il avait dit qu'il ferait parce que vous le connaissiez. Il n'y avait pas d'esprit neutre pendant la guerre dans les cieux. Il n'y a pas de position neutre maintenant qu'il faut faire des choix entre le bien et le mal. Le Seigneur lui-même a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Vous étiez avec lui. Vous étiez enthousiaste face à votre tâche. Vous saviez ce qu'on allait attendre de vous. Vous saviez combien ce serait difficile. Et vous étiez néanmoins confiant, non seulement que vous accompliriez votre mission divine, mais aussi que vous pouviez changer les choses. Un prophète a dit de vous et de votre époque, « Pendant près de 6000 ans, Dieu vous a gardé en réserve pour que vous paraissiez dans les derniers jours précédant la seconde venue du Seigneur. Dieu a gardé pour la dernière ligne droite certains de ses enfants les plus forts, qui aideront à assurer le triomphe du royaume. » Et c'est là que vous intervenez, car vous êtes la génération qui doit être préparée pour rencontrer Dieu. À travers les âges, les prophètes ont vu notre époque. Des milliards de personnes décédées et de personnes à naître ont les regards tournés vers nous. Ne vous y trompez pas. Vous êtes une génération de marque. Quand Pierre a écrit son épître aux premiers saints, il leur a demandé d'ajouter à leur foi la vertu. La foi dépérirait et mourrait sans la vertu, parce que sans la vertu, il n'y a pas de pureté. Sans la vertu, il n'y a pas de force. Et sans la vertu, il n'y a pas de spiritualité. Il est évident que lorsqu'on comprend réellement qui l'on est, on se doit d'être pur, parce que la pureté précède la puissance spirituelle. La puissance dont je parle n'est pas du genre de celle que nous voyons dans le monde. Elle n'a rien à voir avec la gloire, la situation, l'apparence, la célébrité ou la richesse. La puissance et la force dont je parle sont complètement liées à la vertu. Et c'est la chasteté et la pureté sexuelle. Nous vivons dans un monde qui se préoccupe de la propreté et de la pureté de notre air et la propreté de notre environnement, de notre eau et même de notre nourriture. Dans certains endroits, nous légiférons contre la pollution et nous avons même des agences de protection de l'environnement financées par l'État pour veiller à ce que nous ne soyons pas malades à cause des contaminations de notre air, de notre eau ou de notre nourriture. Et pourtant, la société tolère la pollution morale sous forme de pornographie sur les affiches publicitaires, à la télévision, les divertissements, les médias, sur l'Internet et d'autres moyens de communication. Nous tolérons des grossièretés qui entrent notre esprit par des paroles, la musique et un langage suggestif. À certains égards, nous sommes une génération bio qui veille à la pureté et à la qualité de sa vie et pourtant nous nous polluons moralement. Je crois que le manque de vertu dans notre société est directement responsable de beaucoup de nos maux sociaux, financiers et gouvernementaux. Je crois que l'effondrement de la foi et de la famille et l'instabilité financière sont directement liés à un manque de vertu dans notre société. Et je crois qu'un retour à la vertu pourrait sauver toute une nation. Nous demandons une réforme sociale, mais c'est une réforme morale dont nous avons besoin, un appel au retour à la vertu. Si nous qui avons tant reçu et compris l'évangile rétabli de Jésus-Christ ne prenons pas la tête d'un retour à la vertu dans le monde, qui le fera? Vous étiez des dirigeants dans le monde primordial et vous avez défendu tout ce qui est maintenant menacé dans la société. Vous qui vous préparez à être influent dans tous les secteurs de la société, les jeunes adultes de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, pouvez et devez être à la tête de ce retour. Pendant l'époque critique de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill a mobilisé les nations alliées lorsqu'il a dit « Vous vous demandez quel est notre but ?» Je réponds par un seul mot, la victoire. La victoire à tout prix, la victoire en dépit de toutes les terreurs, la victoire, quelque longue et difficile que soit la route pour y parvenir. Car sans victoire, il n'y a pas de survie. Alors, je paraphrase pour vous, jeunes adultes, les paroles de Winston Churchill pour adapter cet appel à la guerre que nous menons aujourd'hui. Vous vous demandez Quel est notre but aujourd'hui? Je réponds par un seul mot. La vertu. La vertu à tout prix. La vertu en dépit de toutes les oppositions. La vertu, quelque longue et difficile que soit la route du repentir. Car sans vertu, il n'y a pas de victoire. Dans le livre de Mormon, Élaman et ses jeunes guerriers sont connus pour leur vertu et leur capacité de faire confiance au témoignage de leur mère. Ils étaient fidèles en tout temps dans tout ce qui leur était confié. Ils respectaient leurs alliances et ils se sont battus pour permettre à leurs parents de respecter leurs alliances. La victoire était leur but et la vertu leur force. Moroni a également parlé de la société dépravée dans laquelle il vivait. Il a expliqué que les gens étaient devenus si ignobles et si immoraux qu'ils n'accordaient pas de valeur à ce qu'il y a de plus cher et de plus précieux, la chasteté et la vertu. Se pourrait-il que nous ayons atteint ce stade dans notre société? À une certaine époque, les personnes qui enfreignaient la loi de chasteté étaient marquées au fer rouge. Maintenant, on dirait que ce sont les chastes qui portent cette marque. Pourquoi votre génération sera-t-elle connue? Est-ce qu'on vous appellera la génération tolérante, la génération de consommation, la génération X ou Y? Est-ce qu'on vous connaîtra comme la génération qui a été séduite par la vie virtuelle au lieu de l'être par la vie vertueuse? Ou pourriez-vous être connu pour votre pureté, votre vertu, ainsi que votre courage et votre force à la tête du reste du monde dans un retour à la vertu? Un retour si frappant que la pureté même de votre vie et la force de votre conviction influenceront le cours de l'histoire et changeront le monde. Vous vous préparez au retour du Sauveur. Vous devez avoir le péché en horreur. Vous devez vous positionner et vous préparer maintenant pour être plus apte au royaume. Il a été prophétisé qu'un jour, des gens de tout pays diraient « Venez et montons à la montagne du Seigneur afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi. » Est-ce que vous serez la génération qui mènera cette ascension? Pour ce faire, chacun d'entre nous doit être un gardien de la vertu. Jeune fille, protégez votre vertu. Comme l'a décrit Moroni, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cher et de plus précieux. Et c'est ce que vous êtes aussi. Vous êtes fille de Dieu. Vous avez en vous le pouvoir sacré de créer la vie mortelle et de devenir mère des esprits précieux et purs de notre Père céleste. C'est l'un des plus grands dons de Dieu à ses filles de valeur. Protégez ce pouvoir en respectant les principes, en étant pudique par vos vêtements et vos actes et en restant vertueuse. Protégez votre pouvoir par la pureté de pensée et d'action. Ne laissez personne toucher au don que Dieu vous a donné. Si vous le faites, vous, votre famille et les générations à venir seraient fortifiées et bénies. Vous aussi, jeunes gens, vous êtes les gardiens de la vertu. Vous détenez le pouvoir de la prêtrise, le pouvoir de bénir et d'agir pour Dieu ici-bas. Le Seigneur a dit à tous les détenteurs de la prêtrise, « Pratiquez la vertu et la sainteté devant moi. » Gardez votre vertu, veillez à ce que vous regardez, ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Ne laissez pas la pornographie diminuer votre pouvoir personnel. Restez pur pour pouvoir exercer le pouvoir de la prêtrise que Dieu vous a confié. Moroni résume l'enseignement des prophètes d'autrefois sur la vertu lorsqu'il nous dit « Ayez de la sagesse pendant les jours de votre épreuve. » Dépouillez-vous de toute impureté. Ne demandez pas afin de tout dépenser pour vos passions, mais demandez avec une fermeté inébranlable afin de ne céder à aucune tentation, mais afin de servir le Dieu vrai et vivant. Il y a plusieurs années, je suis allée courir tôt le matin, la veille de la fête de l'Action de grâce, avec un groupe de femmes. Nous avons appelé cela notre course de l'Action et de grâce. En courant, nous indiquions des choses pour lesquelles nous étions reconnaissantes. Je venais de dire que j'étais reconnaissante d'avoir un corps fort et en bonne santé quand j'ai glissé sur une plaque de verglas sur la route et suis tombée. Quand j'ai essayé de me relever, je me suis rendu compte que j'étais gravement blessée. J'ai su que je m'étais cassé la jambe juste au-dessus de la cheville. Et je ne vous dirai pas comment j'ai su, sinon je pourrais m'évanouir. Mais je le savais. Mon mari a dit que si j'avais fait partie d'une équipe de football américain, je serais passée au journal télévisé pendant toute la soirée. Alors que j'étais étendue sur la route, dans l'ombre des premières lueurs du jour, à attendre l'arrivée des secours, j'ai vu les phares d'une voiture qui fonçait tout droit sur l'endroit où je me trouvais. La voiture s'est arrêtée et un homme en est sorti. Il a dit qu'il m'avait prise pour un sac de poubelle sur la route et avait failli continuer. Je lui ai demandé, s'il allait s'arrêter. Et je lui ai demandé s'il était membre de l'Église et il a répondu oui. Alors je lui ai demandé s'il pouvait me donner une bénédiction parce que j'avais si mal que je ne savais pas si je pourrais rester longtemps comme cela. Après un moment de réflexion, il a dit « Je ne peux pas. Il vaut mieux que vous attendiez votre mari pour ça. » Il est remonté dans sa voiture, puis il est reparti. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a mise dans une petite cabine de la salle des urgences en attendant de m'emmener au bloc opératoire. Quand on a ouvert les rideaux, il y avait mon mari et nos 5 fils. Lorsqu'ils m'ont entourée et ont posé les mains sur ma tête, j'ai ressenti leur pureté, leur pouvoir et leur force. Jeunes gens, gardez votre pureté afin que vous puissiez utiliser le pouvoir de la prêtrise au moment requis. Ce jour-là, j'ai été bénie par le pouvoir de la prêtrise qu'ils détenaient et qu'ils exerçaient dans la vertu et la sainteté. Je pense vraiment qu'une seule jeune fille et un seul jeune homme vertueux, conduit par l'Esprit, peut changer le monde. Mais avant de changer le monde, nous devons nous changer nous-mêmes. Boyd K. Packer a dit, « Nous vivons dans un environnement qui devient toxique pour l'Esprit. » Alors, que pouvons-nous faire par l'exemple pour rester vertueux dans un monde toxique? Premièrement, nous repentir. Je suis bien consciente que certains d'entre vous qui m'écoutez ne se sentent pas vertueux ou ont fait des erreurs. C'est pour cela qu'un retour à la vertu est si important. Vous devez savoir que vous pouvez revenir, vous pouvez changer. Si au milieu d'un marathon, je me rendais compte que j'allais dans la mauvaise direction, je ferais demi-tour immédiatement. Pourquoi? Parce que j'aurais perdu un temps précieux, de l'énergie et de la force, et ce serait un marathon beaucoup plus dur pour moi à cause de cette distance et ce temps supplémentaire. Je ne continuerai pas dans la mauvaise direction parce que, quelle que soit la distance parcourue, je n'arriverai jamais à la ligne d'arrivée. Pourtant, pour beaucoup de ceux qui ont fait une erreur morale, une petite voix ne cesse de leur dire « Tu as tout gâché. Tu ne peux pas changer. Personne ne le saura jamais. » Je vous dis, ne le croyez pas. Satan veut que vous pensiez que vous ne pouvez pas changer, mais c'est absolument faux. Un retour est toujours possible grâce à l'expiation du Sauveur. Le président Manson a dit à chacun de nous qui avons fait des erreurs, « Si l'un d'entre vous a fait un faux pas, il y a des gens qui vous aideront à retrouver votre pureté et votre dignité. Votre évêque ou votre président de branche est tout disposé à vous aider. Et avec compréhension et compassion, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous accompagner dans le processus du repentir, afin que vous soyez de nouveau juste devant le Seigneur. » Certains d'entre vous sont les victimes de péchés d'autres personnes. Comme l'a dit Moroni, on vous a privé de ce qu'il y a de plus cher et de plus précieux, la chasteté et la vertu. Sachez que grâce à l'expiation du Sauveur, la guérison est possible. Vous n'êtes pas responsable car vous n'avez pas péché et le repentir n'est pas nécessaire. Non seulement le Sauveur a a souffert pour nos péchés, nos imperfections, mais il a aussi pris sur lui nos chagrins. Par son expiation infinie, il vous guérira et vous donnera la paix. Accourez à lui. Grâce à l'expiation du Sauveur, Dieu le Père entendra vos prières et il répondra par le Saint-Esprit et d'autres qui seront placés sur votre chemin. Comme je suis reconnaissante de cet enseignement et du principe du repentir, sans cela, personne d'entre nous ne pourrait jamais retourner dans notre foyer céleste, pur et digne de demeurer en présence de Dieu le Père et de notre Sauveur Jésus-Christ. Je suis reconnaissante du rétablissement du pouvoir de la prêtrise sur la terre en ces derniers jours, qui nous permet de recevoir l'aide dont nous avons besoin pour retourner à la vertu. Ce pouvoir nous permet aussi de nous préserver des souillures du monde lorsque nous prenons la Sainte Cène dignement. Chaque semaine, quand nous renouvelons nos alliances, nous promettons de respecter ses commandements, de prendre son nom sur nous et de nous souvenir toujours de lui. En échange, il nous promet que nous pourrons toujours avoir son esprit avec nous. Dans un monde si séduisant et si attirant, il est impératif que chacun de nous reçoive l'aide du Saint-Esprit, la reconnaisse et lui fasse confiance. Ce don merveilleux nous montrera tout ce que nous devons faire. C'est une promesse étonnante, car le Saint-Esprit est un membre de la divinité. Son rôle est notamment d'enseigner, de témoigner, de réconforter et d'avertir. Ce don précieux purifie et sanctifie également. Le Saint-Esprit et la vertu sont donc inextricablement liés. Nous pouvons être purifiés par le feu et par le Saint-Esprit. Lorsque cela se produit, nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Deuxièmement, j'aimerais que vous soyez prudent dans le choix de vos amis. Dans notre société technologique actuelle, nous pouvons passer plus de temps avec des compagnons non humains qu'avec nos semblables. Parfois, nous ne sommes pas très prudents concernant nos compagnons humains, mais cela ne nous préoccupe pas beaucoup des autres compagnons que nous acceptons et dont nous acceptons l'influence. Les divers moyens de communication peuvent avoir une très grande influence sociale. Nous avons tous reçu 3 dons précieux pour notre expérience dans la condition mortelle. Ce sont notre corps, notre libre arbitre et notre temps. Si Satan réussit à nous convaincre d'utiliser notre temps sans but, d'une manière improductive ou pire à des entreprises non vertueuses, puis s'il parvient à nous faire croire que si nous le faisons en privé, nos actes n'affectent personne, il a gagné. Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. Recherchez la compagnie d'amis vertueux et non amis virtuels. Souvenez-vous, la vertu aime la vertu et la lumière s'attache à la lumière. C'est une écriture relationnelle. Dans votre recherche d'amitiés éternelles et d'un conjoint, vous ne pouvez pas simplement faire la liste de toutes les qualités que vous aimeriez chez quelqu'un d'autre ou chez votre conjoint éternel. Vous devez être vous-même votre liste en tout temps, en toute chose et en tout lieu. Troisièmement, établissez un programme d'entraînement strict. Lorsqu'on se prépare pour un marathon, on doit avoir un programme d'entraînement strict pour réussir à tenir la distance. Cela s'applique également à la vie. Nous sommes dans la course de notre vie et nous devons avoir un programme d'entraînement strict. Les éléments du programme nous assureront la réussite et sans exception, les choses que nous ferons tous les jours nous favoriseront la compagnie de l'Esprit. Ces choses seront différentes pour chacun d'entre nous, mais on trouvera toujours dans la liste la prière quotidienne. Notre Père Céleste entend nos prières et il y répondra. Je témoigne que c'est vrai. La question est de savoir si nous serons dans un endroit où nous pourrons écouter et reconnaître les réponses. Nous devons également veiller à nous donner un moment de calme chaque jour pour écouter les réponses. Et l'entraînement strict comprend la lecture du livre de Mormon chaque jour. Joseph Smith a dit qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. Le livre de Mormon augmentera votre foi en Jésus-Christ et par votre foi, vous serez capable de résister à la tentation. Ce livre est pour vous et pour votre génération. Une lecture de 5 minutes chaque jour changera votre vie. Je sais que c'est vrai parce que je l'ai fait, comme des milliers de personnes. Pensez au changement qui se produirait en 5 ans si chacun de nous s'engageait à le faire maintenant. 5 petites minutes par jour. Et pour finir, souriez. Et quand vous souriez, rappelez-vous qui vous êtes. Vous êtes les fils et les filles de notre Père Céleste. Il vous connaît, il connaît votre nom, il a confiance en vous et il vous aime. Alors, souriez. C'est l'entraînement de base, mais il faut le faire absolument chaque jour. Je vais ajouter une recommandation à cette liste. Allez de l'avant avec une espérance d'une pureté parfaite. Ne vous découragez pas. Votre parcours sera difficile par moments, mais ne vous découragez pas. Votre parcours ne sera pas toujours facile. En étudiant les Écritures, il m'est devenu de plus en plus évident que le Seigneur sort sans cesse son peuple choisi de ses zones de confort pour lui enseigner les choses qui ont réellement de l'importance. Par exemple, dans la première partie du voyage des Jaredites, ils sont arrivés sur une plage et ils y sont restés 4 ans. Ils étaient vraiment dans une zone de confort. Ils étaient en fait si bien qu'ils ont oublié de prier le Seigneur. Mais le Seigneur avait autre chose à l'esprit. Il a réprimandé le frère de Jared pendant 3 heures. Il lui a même dit à l'avance que la suite du voyage serait difficile, qu'il serait submergé dans les profondeurs de la mer et poussé par les vents. Mais il l'a rassuré aussi par 6 belles paroles. « Je vous prépare contre ces choses. Le Seigneur préparera la voie. Il vous préparera et il préparera la voie pour vous. » Je crois que nous sous-estimons totalement les grandes bénédictions que nous pourrions recevoir et la connaissance que nous pourrions acquérir en acceptant de sortir de nos zones de confort. C'est peut-être pour cela que Néphi a dit « Malheur à celui qui est à l'aise en Sion. Malheur à celui qui crie « Tout est bien ». Oui, malheur à celui qui écoute les préceptes des hommes et nie le pouvoir de Dieu et le don du Saint-Esprit. » On a dit que nous devenons une génération de spectateurs et de critiques. Voici l'une de mes citations préférées. Ce n'est pas la critique qui compte, pas l'homme qui montre du doigt celui qui trébuche ou celui qui aurait pu faire mieux. Le mérite revient à l'homme qui est dans l'arène, qui a le visage couvert de poussière, de sueur et de sang, qui lutte vaillamment, qui s'égare, qui échoue encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur ni échec, mais qui fait preuve d'un grand enthousiasme, d'un grand dévouement et qui s'investit dans une noble cause, quelqu'un qui triomphera peut-être et atteindra un grand accomplissement ou alors qui échouera, mais qui le fera après avoir beaucoup osé, si bien qu'il ne se retrouvera jamais parmi ces âmes froides et timides qui ne connaissaient ni la victoire ni la défaite. Ne soyez pas qu'un spectateur ou un critique. Vous ne l'avez pas fait dans le monde primordial. Vous n'étiez pas neutre alors. Vous étiez ferme. Ne permettez pas à ceux-là même qui réclament la tolérance de ne pas vous tolérer, vous et votre point de vue. Nous sommes dans l'arène où tout ce que vous avez défendu et choisi autrefois se déroule maintenant. Ne vous lassez pas, ne vous laissez pas distraire ou disqualifier. Soyez disposés à sortir de vos zones de confort et marchez résolument avec une espérance d'une pureté parfaite. Partout dans le monde, les jeunes filles de l'Église font part de leur engagement à rester pures et chastes. Des jeunes filles et quelques jeunes gens ont escaladé des montagnes pour déployer leur bannière personnelle, déclarant leur engagement à retourner à la vertu en restant pures et chastes. Allez-vous vous joindre à eux? Réfléchissez à votre bannière personnelle. Qu'inscririez-vous sur votre bannière? Si ce devait être votre seul message au monde, quelle serait votre bannière ? À une autre époque, en un autre lieu, une autre bannière a été déployée. Elle a été par un homme courageux, Moroni, qui était engagé dans la cause de la justice. La société dans laquelle il vivait était dans la tourmente. Le désir de pouvoir, de richesse et de prestige avait poussé certains des plus forts et des plus déterminés à être, comme le décrit le Livre de Mormon, peu à peu empoisonnés. En d'autres termes, certains, initialement déterminés à ne pas faire de compromis, se laissaient peu à peu persuader d'en faire. Alexander Pope a exprimé de la manière suivante ce que signifie être peu à peu empoisonné. Il a dit « Le vice est un monstre si effrayant qu'il suffit de le voir pour le haïr. Mais quand nous le voyons trop souvent, il devient familier. Nous commençons par le supporter, puis nous le prenons en pitié et nous finissons par l'embrasser. » C'est dans ce contexte que Moroni a déployé sa bannière, l'étendard de la liberté, appelant à la défense des familles, des femmes et des enfants, de la religion et de Dieu. Il n'était pas neutre, il n'était pas passif, il n'était pas tolérant. Il avait raison. Il est allé de l'avant avec audace. Les Écritures donnent une description de Moroni qui s'applique à beaucoup de vous. Si tous les hommes avaient été et étaient et devaient être un jour semblables à Moroni, voici, les puissances mêmes de l'enfer auraient été ébranlées à jamais. Oui, le diable n'aurait jamais eu de pouvoir sur le cœur des enfants des hommes. Vous êtes la bannière. Votre vie de pureté et de vertu est la bannière qui attirera les regards des habitants de tous les pays du monde, qu'il les fera venir au temple. Si vous restez vertueux, vous serez conduit par le Saint-Esprit et votre vertu vous qualifiera pour aller souvent au temple. Si vous n'avez pas de recommandation, c'est le moment de devenir digne d'en obtenir une. C'est votre tâche. Le temple sera votre force et votre protection dans un monde qui s'assombrit et il deviendra une bannière non seulement pour vous, mais pour les nations. Un retour à la vertu est un retour au temple, et un retour au temple est un retour au Sauveur. Il y a 41 ans, je me suis agenouillée à un autel du temple de Salt Lake City, et j'ai fait alliance avec l'homme qui est avec moi sur l'estrade. Cette décision a fait toute la différence dans les décennies qui ont suivi. Ce que j'essaie de vous dire est qu'il faut y aller. Ne vous laissez pas distraire. N'oubliez pas qui vous êtes et ne laissez rien vous priver des bénédictions qui vous attendent dans le Saint-Temple du Seigneur. Je me sens poussée à vous citer les paroles de la section 121 des Doctrines et Alliances. Elle s'adresse à ceux qui sont appelés, choisis et qui persévèrent vaillamment. Elle s'adresse à vous dans ces moments difficiles. Elle ne s'adressait pas uniquement à Joseph Smith et au sein de cette époque difficile au début de l'Église, mais à vous. Que la vertu orne sans cesse tes pensées, alors que ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu et le Saint-Esprit sera ton compagnon constant. Si vous êtes vertueux, il vous est promis que vous vous tiendrez avec confiance en sa présence, saint et comme lui. Le pouvoir de la prêtrise nous est promis, le pouvoir de la divinité, parce que nous sommes vertueux. La compagnie constante du Saint-Esprit nous est promise. Il témoigne, dirige, protège, enseigne, avertit, console et sanctifie. Et pour finir, la vie éternelle nous est promise, le plus grand don de tous les dons de Dieu. Nous serons des dieux menant une vie semblable à celle de Dieu si nous sommes vertueux. Nous serons comme lui, purs comme il est pur. Pour aller en Sion, lieu où résident ceux qui ont le cœur pur, nous devrons donner tout ce que nous avons. Je prie pour que chacun de nous ait le désir et la force de sortir de ces zones de confort, se préparant pour la course de sa vie. Et pour que nous puissions, comme Agnès Caldwell, atteindre et prendre la main du Maître, car il nous a promis à tous. J'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Je témoigne que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ vivent et qu'ils nous prépareront pour la grande œuvre à accomplir dans les saints temples pour nous préparer non seulement à la seconde venue du Sauveur, mais aussi à notre exaltation éternelle. Et je dis ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.